Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans le 14e épisode de La vie est un conte. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires courtes. La première s'appelle Le mille-pattes et elle est tirée des Fils aux fables de Michel Picmal. Et la deuxième est intitulée L'œil de l'éléphant et est issue du Cercle des menteurs, volume 1 de Jean-Claude Carrière. Il était une fois, deux fois, maintes fois, un mille-pattes qui vivait tranquille, insouciant et heureux. Un jour, un crapaud qui habitait dans les parages lui posa une question bien embarrassante. « Lorsque tu marches, lui demanda-t-il, dans quel ordre bouges-tu tes pattes ?» Le mille-pattes fut si troublé par la question du crapaud qu'il rentra aussitôt dans son trou pour y réfléchir. Mais il avait beau se creuser la cervelle, il ne parvenait pas à trouver de réponse. À force de questionnement, il finit par ne plus être capable de mettre ses pattes en mouvement. Il resta bloqué dans son trou, où il mourut de faim. L'éléphant traverse un fleuve, raconte une histoire venue du Cameroun. Tout d'un coup, l'un de ses yeux se détache et tombe au fond de l'eau. Affolé, l'éléphant se met à le chercher de tous côtés, mais en vain. L'œil paraît bel et bien perdu. Pendant qu'il s'agite au milieu du fleuve, tout autour de lui les animaux aquatiques, les poissons, les grenouilles, mais aussi les oiseaux et les gazelles restées sur la berge, tous lui crient « Calme-toi ! Du calme, ô éléphant, calme-toi !» Mais l'éléphant ne les entend pas et il continue à chercher sans trouver son œil. « Du calme !» crient les autres, « du calme !» Il finit par les entendre, il s'immobilise et il les regarde. Alors, l'eau de la rivière entraîne doucement la vase et la boue qu'il soulevait en pataugeant. Entre ses pattes, en regardant, il aperçoit son œil dans l'eau redevenue claire. Il le ramasse et le remet en place. Vivre consiste à agir. Henri Bergson. Il y a quelques années de cela, j'avais suivi une série de stages de développement personnel et lors du dernier, le thérapeute qui animait le stage avait à plusieurs reprises répété « Il y a un temps pour visiter sa cave et un temps pour en sortir ». En effet, paradoxalement, il peut y avoir un certain confort à rester dans sa cave. Quoi de plus passionnant que de faire plus en plus connaissance avec soi-même, mieux se connaître et découvrir la merveilleuse personne pleine de potentiel que nous sommes. Cependant, comme dirait mon cher et tendre époux, le nageur sur la rive est toujours un très bon nageur. Se jeter à l'eau pour le nageur qui est sur la rive ne serait-ce pas prendre le risque de réaliser que nous sommes peut-être pas un aussi bon nageur que nous l'imaginons ou que nous nous plaisons à le répéter. Aussi, rester les pieds au sec sur la rive permettrait peut-être de garder ses rêves intacts. Mais réfléchir et mûrir un projet sans passer à l'action conduit fatalement à une frustration de plus en plus grande. Nous avons cette sensation désagréable de lion tournant en rond dans sa cage. Nous sentons que ça bouillonne à l'intérieur de nous et pourtant, nous n'y allons pas. Pourquoi ? Parce que passer à l'action est une prise de risque, une sortie de notre zone de confort. Et donc, nous avons peur. La peur fait partie du chemin, elle est là pour nous indiquer qu'il y a un danger. Cependant, la peur ne nous barre pas le chemin. Elle joue son rôle de peur, c'est tout, en nous susurrant, plus ou moins fort, à l'oreille, attention, danger potentiel. Si nous ne passons pas à l'action, alors nous donnons une grande place à cette peur pour s'exprimer. Et nous risquons bien de nous retrouver comme le mille-pattes du conte, complètement paralysés. Ce que je trouve intéressant dans l'histoire du mille-pattes, c'est qu'il illustre que le corps sait. Le mille-pattes, avant de se poser la question, se mouvait sans difficulté. Un peu comme quand vous descendez un escalier et que soudain vous décidez de porter attention à vos pas. Dès lors, le mouvement naturel ne s'opère plus et vous perdez pied et manquez de vous casser la figure. Il est des domaines dans lesquels le mental n'a pas sa place. Par exemple, une personne qui a tendance à rougir, plus elle se répétera « il ne faut surtout pas que je rougisse », plus elle rougira. La volonté de contrôle par le mental, dans le cas présent, renforce le problème. Ne cherchons donc pas à tout contrôler. Mon professeur de philosophie en terminale disait « à trop gratter le pot, on le casse ». Il y a donc un temps pour visiter sa cave et un temps pour en sortir. Mais l'histoire de l'éléphant nous invite à un troisième temps qui est très intéressant. Un temps qui n'est ni l'introspection de sa cave, ni l'action. Notre éléphant, perdant son œil, commence par un mouvement de panique désordonné où il remue la vase dans tous les sens. On pourrait associer ce moment à ses réflexions intenses face à un problème où nous restons bloqués sur le « qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ?» où nous nous agitons, nous nous démenons à chercher une solution. Les animaux alentour l'invitent à se calmer, à prendre un moment où il ne ferait rien. En coaching, on va parler de vide fertile, ces moments où la vase se repose et où l'eau s'éclaircit d'elle-même sans rien faire. Cela correspond à l'hiver dans le cycle de Hudson que nous avons vu à l'épisode 10. Quand nous donnons-nous ces moments de vide fertile ? Je me souviens que quand je rédigeais mon mémoire pour ma certification de coach, il m'arrivait d'être complètement bloqué sur une partie. Et alors, au lieu de rester devant mon ordinateur, n'arrivant pas à faire les liens ni à expliciter mes propos, il m'arrivait de chausser mes baskets et d'aller courir. Et c'est souvent dans ces moments-là que l'inspiration venait, que les idées affluaient, que des connexions entre mes différentes lectures se faisaient. Alors, je saisissais la fonction dictaphone de mon téléphone et d'une voix tout essoufflée, j'enregistrais ces précieuses idées. L'eau s'était éclaircie d'elle-même. Ce qui est troublant, c'est qu'en essayant de résoudre absolument un problème, tout se passe comme si, à l'inverse, on entretenait le problème par nos tentatives de solution. C'est le cas typique, par exemple, de ces couples qui n'arrivent malheureusement pas à avoir d'enfants et qui, quand ils ont la chance d'arriver à adopter un enfant, dans les 6 mois qui suivent, la femme tombe enceinte naturellement. Arrêter de chercher à tout prix à résoudre un problème permettrait de laisser la place à une résolution de problème entre guillemets naturelle. Notre éléphant, une fois l'eau éclaircie, ramasse son œil et repart tranquillement. Aujourd'hui, je ne vous propose pas un outil pour visiter votre cave et mieux vous connaître. Je ne vous propose pas non plus un moyen de vivre un vide fertile, car chacun aura son propre moyen. Chez moi, ça passe par aller courir ou me promener en forêt. Chez d'autres, ce sera en peignant, en nageant ou en cuisinant, que sais-je. Mais je vous propose un outil très utile pour passer à l'action. La meilleure façon, pour moi, de passer à l'action est de définir clairement son objectif, puis de planifier tous les petits pas nécessaires pour l'atteindre. Aussi, je voulais revenir sur cette notion d'objectif SMART que vous connaissez sûrement déjà, mais qui est tellement, tellement aidante. Cette notion d'objectif SMART a été définie par George Doran, un professeur de management dans une université américaine. SMART est un acronyme mémotechnique qui permet de définir des objectifs le plus clairement possible. Les indicateurs se composent comme suit. Le premier S est le S de spécifique. L'idée est ici de nous poser la question « qu'est-ce que nous souhaitons concrètement obtenir ? Qu'est-ce que nous observerons quand l'objectif sera atteint? Quels comportements serons-nous en mesure d'adopter? Quelles compétences aurons-nous développées? Le deuxième M est pour mesurable. En effet, un objectif doit être quantifiable et mesurable. Définir des chiffres précis à atteindre est le seul moyen de savoir si vous avez réussi vos objectifs ou non. Quels sont les indicateurs que nous nous donnons? À quoi pourrons-nous voir que notre objectif est atteint? Le A est A de ambitieux. Un objectif pour être acceptable est un objectif suffisamment grand, ambitieux, pour qu'il représente un défi et qu'il soit motivant. En coaching, nous aidons nos clients à définir clairement un objectif. Celui-ci est rédigé positivement. Nous évitons les formules négatives du type « ne plus m'énerver en réunion » et nous préférons des formulations positives « rester calme et serein en réunion » par exemple. Car les objectifs jouent un rôle d'attraction. Ils doivent faire envie. Le R est pour réaliste. Pour qu'il soit réaliste, un objectif doit être pertinent. L'objectif doit être en accord avec nos ressources. Attention à ne pas mettre la barre trop haut. Si aujourd'hui, je me vois m'énerver à chaque réunion, mon objectif ne peut pas être tout de suite d'être 100% serein à toutes les réunions. Et enfin, la dernière lettre est le T de temporellement défini. Un objectif doit être fixé dans le temps et doit avoir une date limite. Pour rendre concrètes les choses, et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à mettre ce podcast en pause et à regarder votre objectif du moment ou, si vous ne l'avez pas encore défini, quel serait votre objectif principal en ce moment. Et prenez le temps de remplir ces cases spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporellement définis. Une fois votre objectif SMART défini, la question va être de se poser quelles sont toutes les étapes intermédiaires. C'est ce que j'appelle les petits pas. Quel est mon PPPP, mon premier petit pas possible? Et une fois que vous l'avez écrit, quel est mon deuxième petit pas possible? Puis, une fois écrit, quel est mon troisième petit pas possible, etc., etc. Et pour chaque petit pas, l'important c'est de savoir de quoi j'ai besoin pour le faire. Combien de temps je vais avoir besoin pour réaliser ce premier petit pas? Quand est-ce que je le planifie? Et l'échéance doit être très claire et pas trop éloignée. Ça commence cette semaine. L'action est de toute façon une prise de risque nécessaire. L'ancien premier ministre canadien Wilfrid Laurier disait « Le commencement est la moitié de l'action ». Autrement dit, c'est le premier pas qui compte. Et la bonne nouvelle, c'est que la peur se dissout dans l'action. Comme dirait le slogan « Just do it ». Maintenant, regardons du côté de l'entreprise. Vous avez probablement dû vivre des réunions où l'on se coupait les cheveux en quatre et où vous ressortiez de la réunion avec la planification de la réunion suivante sur le sujet pour prolonger le débat, car ça n'avait pas tant avancé que ça. Peut-être même que vous y voyez encore moins clair qu'avant la réunion, car la vase avait été remuée. Mon invitation est à essayer et à voir ce que ça produit, si ça vous va, si ça convient dans vos types de réunions, et si ça n'est pas le cas, il y a certainement d'autres solutions créatives à trouver. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours où nous parlerons d'une mère et de son fils. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le compte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestuncompte.com. À bientôt !